Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de rentrée de notre magazine Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle, la radio des luttes sociales, écologiques dans le bassin minier et au-delà, lutte féministe, lutte antiraciste, anticolonialiste, toutes les alternatives pour changer notre société. Et bien après 2 mois de congé, 2 mois d'absence, nous nous retrouvons avec en studio à la technique Luc. Bonsoir Luc.
Bonsoir à toutes et à tous, salut Lucien.
Et Aurélie, bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Et donc aujourd'hui, émission de reprise de contact avec vous, ce qui est l'occasion de vous rappeler, chères auditrices, chers auditeurs, que tous nos enregistrements sont publics. Vous pouvez venir nous rejoindre en studio tous les vendredis pour une émission de 18h à 19h. Nos studios sont à quelques dizaines de mètres de la place Gambetta de Liévin, au 13 rue Victor Hugo. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Émission de rentrée, donc, qui sera également rediffusée par nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Je pense notamment à Radio PFM 99.9, radio libre et sans pub, qui nous rediffuse chaque vendredi à 20h. Le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. Merci à PFM et merci également à Radio Plus 104.3 à Douvrin, la radio du bassin minier et de l'Artois qui nous rediffuse, qui rediffuse ce micro Rebelle Hebdo le mardi à midi. Merci à eux. Au programme aujourd'hui, comme dans chaque micro Rebelle Hebdo, l'agenda. L'agenda culturel, politique, des jours à venir, l'agenda social, et puis actualité, revue de presse et reportage. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Sans attendre, on va démarrer par l'agenda. Alors, je vais pas beaucoup insister parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais on va commencer par le samedi 7 septembre. Ça se passe à Lille, c'est une manifestation Place de la République à 13h30. Une manifestation à l'appel de Sud, à l'appel des Gilets jaunes, à l'appel d'autres mouvements associatifs. Par exemple, l'AG s'est associé à cette manifestation, le lieu autogéré du bassin minier. Donc on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans l'actualité.
On se retrouve ensuite le dimanche 8 septembre pour la 6e fête anti-mille vaches. Donc l'association Novicène organise sa 6e fête anti-mille vaches avec une table ronde sur l'agro-industrie, les pesticides, comment s'en passer. Il y aura des débats, des associations, des stands de producteurs locaux et le dévoilement des résultats des pisseurs volontaires de glyphosate. Le rassemblement aura lieu à 9h le dimanche 8 septembre à la salle des fêtes de Ducras dans la Somme pour un départ en manifestation afin de rejoindre la ferme des mille vaches. Plus d'informations sur novicène.com.
Le mercredi 11 septembre, ça se passe au LAG. C'est la chorale du LAG, la chorale des chants de lutte et d'espoir. Donc le LAG nous communique, je vous lis, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont envie de donner de la voix. Et par ailleurs, Antoine, qui nous accompagne à la guitare, assure une initiation à la guitare d'accompagnement pour celles et ceux qui le souhaitent. C'est donc à 18h30 avant la chorale. On démarre en douceur pour les grands étudiants et on apprend à accompagner les chansons de la chorale. C'est donc au LAG à 18h30 initiation guitare et 19h chorale. Le mercredi 11 septembre.
Enfin, le jeudi 12 septembre, le collectif de lutte contre les expulsions et coupures organise une réunion publique. Au programme, informations sur la réunion avec le sous-préfet de Béthune, le 1er août, Puis, un point sur la situation des personnes expulsées sans solution d'urgence. Enfin, nous parlerons de la faillite et des mensonges de l'État. Ça se passera à 18h à la mairie annexe, salle Jean Moulin derrière le Stade Parc à Bruay-la-Bussière.
Eh bien, merci Aurélie. Donc, c'était notre agenda de rentrée. Hein, on rentre tout doucement dans l'actualité sociale et culturelle. Alors, concernant justement l'actualité d'une manière générale, pour cette émission de rentrée sur Micro Rebelle, il est important de traiter de l'actualité de ce début septembre. Et cette actualité est effectivement très riche pour ce qui est des informations sociales, politiques, environnementale, féministe, anticolonialiste, etc., etc. L'été aussi a connu son lot d'informations importantes. On peut par exemple citer les mobilisations contre le sommet du G7 à Biarritz, avec une ville transformée en véritable forteresse, une forteresse pour défendre les intérêts capitalistes. On peut également évoquer la mort de Steve Maya Canisso, dont le corps a été retrouvé fin juillet dans la Loire à Nantes. Je vous renvoie à ce sujet au reportage sur microrebelle.fr, reportage effectué à l'occasion d'un rassemblement pour Steve et par extension contre les violences policières. L'été a également été marqué par les incendies de forêt en Amazonie et les échanges politiciens qui ont eu lieu à ce sujet. Il aurait sans nul doute été plus juste de rappeler que c'est l'exploitation capitaliste, encore et toujours, qui détruit la forêt, sans parler des énormes quantités de gaz carbonique qui se dégagent et qui vont accélérer le réchauffement climatique. À l'étranger toujours, mais plus près de nous, en Grèce, fin juillet, le nouveau gouvernement de droite déployait ses forces policières dans le quartier rebelle d'Exarchia, avec l'intention d'expulser les migrants et les migrantes, les squatteurs et squatteuses, qui y vivent. Rappelons qu'Exarchia est ce quartier dans lequel de nombreux collectifs ont créé des dispensaires autogérés, des cafés alternatifs, des cours pour les réfugiés, etc. Une bonne raison pour le nouveau gouvernement, mené par Kyriakos Mitsotakis, de passer à l'attaque. Sur place, bien évidemment, la résistance s'organise, mais la solidarité internationale est plus que jamais nécessaire. On va maintenant évoquer l'actualité de cette rentrée de septembre. Et tout d'abord, la rentrée sociale avec un agenda chargé, qu'on en juge. Mercredi 11 septembre, mobilisation dans les hôpitaux publics et privés, notamment les urgences, et manifestations à Paris. Vendredi 13, grève et rassemblement à la RATP pour une journée noire sans transport. Lundi 16, mobilisation du collectif SOS Retraite avec avocats, médecins, infirmiers et infirmières, kinés, orthophonistes et également pilotes, hôtesses et stewards. Jeudi 19, grève à EDF contre le projet Hercule de réorganisation de l'entreprise. Samedi 21, manifestation force ouvrière à Paris contre la réforme des retraites. Mardi 24, toujours contre la réforme des retraites, cette fois-ci à l'appel de la CGT. Et puis on peut également évoquer les mobilisations de pompiers prévues en septembre et octobre, celles des Gilets jaunes dont le mouvement a à peine faibli durant l'été. Et enfin, les enseignants et enseignantes qui annoncent leur engagement contre la réforme du lycée, contre celle des retraites et pour une revalorisation salariale. Bref, on sent bien que la cocotte minute sociale commence à bouillir. Et c'est un peu la même chose du côté environnemental, avec un week-end de mobilisation pour le climat, les 21 et 22 septembre. Tout ça peut sembler tout à fait encourageant, mais on devine le gros souci qu'il y a derrière ces mobilisations de rentrée. C'est la dispersion, sous forme de journées éparpillées, sans véritable cohérence. Le tout alors qu'on n'a jamais autant parlé de convergence des luttes. Il faut le faire. De là, la réaction d'un certain nombre de militantes et militants, syndicalistes, par exemple de Sud Solidaire, ou encore de Gilets jaunes, ou de militantes et militants associatifs ou autogestionnaires. Ils et elles ont lancé un appel pour, je cite, « une rentrée en résistance » avec une manifestation samedi 7 septembre à 13h30, place de la République à Lille, et une semaine d'action du 20 au 27 septembre. Quelques extraits de cet appel. Constat est fait de façon unanime que la multiplication des dates de mobilisation, notamment en ce mois de septembre 2019, ne nous satisfait pas et qu'elle ne répond pas à notre volonté de mobilisation commune et unitaire. La stratégie, la même que tous les ans, celle de l'éparpillement des mobilisations, décrétée au niveau national, ne nous satisfait pas non plus. L'urgence sociale et climatique nécessite de rompre avec le système capitaliste. Face à ce système qui exploite les humains et la nature, cette année, nous nous voulons unitaires pour le bloquer. Face aux responsables politiques qui enrichissent une minorité au mépris des plus vulnérables, du monde vivant et des générations futures, cette année, nous nous voulons unitaires pour faire justice. Face aux réformes antisociales, discriminantes, face à un pouvoir autoritaire, cette année, nous nous voulons unis pour reprendre nos droits. Face aux multinationales qui saccagent et pillent notre monde, cette année, nous nous voulons unis pour les faire échouer. Les alternatives pour un monde juste, solidaire et soutenable existent. Cette année, nous serons unis pour leur donner vie. L'heure est trop grave, les enjeux trop grands, nos adversaires trop forts, notre lutte doit être collective. Le 7 septembre, nous défilerons dans les rues de Lille pour annoncer une rentrée de résistance et de passage à l'action. Durant la semaine du 20 au 27 septembre, nous serons à l'initiative d'action en lien avec nos revendications communes concernant la justice sociale, la défense des services publics, les retraites, la lutte contre le dérèglement climatique, la solidarité et la lutte contre les discriminations. L'unité se construit en tenant compte des apports de toutes et tous, en respectant la pluralité des opinions de tous les participants. L'heure est donc au rassemblement. Nous invitons toute personne, toute organisation, association, syndicat, parti politique, à rejoindre notre appel. Une autre actualité, cette rentrée, c'est évidemment le Grenelle des violences conjugales. Nous en reparlerons tout à l'heure avec une interview de Nadine, du planning familial du Pas-de-Calais, qui a participé au Grenelle départemental à Arras. Et pour conclure cette partie actualité de rentrée, il nous a semblé intéressant de mettre en perspective toutes les mobilisations qui s'annoncent dans des secteurs très différents, avec le palmarès des grandes fortunes françaises, tel qu'il a été publié cet été par la publication économique américaine Bloomberg Billionaires Index et par le magazine français Challenge. En résumé, premièrement, les 14 plus grandes fortunes françaises ont vu leur richesse augmenter de 78 milliards de dollars. Oui, 78 milliards, c'est bien une augmentation pour 14 familles. Dans le trio de tête, on trouve Bernard Arnault, dont la fortune dépasse 90 milliards et qui est aujourd'hui le troisième homme le plus riche de la planète. Troisièmement, derrière, avec 50 milliards, il y a les frères Wertheimer, propriétaires de Chanel, puis les Bettencourt, propriétaires de L'Oréal, avec 46 milliards d'euros, et Mullier, propriétaire d'Auchan, avec 32 milliards, et encore Pinault, lui aussi dans le luxe, comme Bernard Arnault, avec 29 milliards. Quand on entend ces sommes colossales, quand on essaie de se représenter cette augmentation de 78 milliards de dollars pour 14 personnes, on peut mettre le doigt sur ce que signifie sortir du capitalisme. Sortir du capitalisme, c'est arrêter d'enrichir quelques propriétaires privés à partir de la valeur générée par les salariés dans le cadre d'une économie productiviste, prédatrice des hommes, des femmes, de la nature. À partir de là, la question du financement des retraites, des urgences hospitalières, des transports, des salaires, se pose tout à fait autrement. Revue de presse maintenant, revue de presse à deux voix, donc je vais commencer avant de donner la parole à Aurélie. Et je vais commencer par évoquer, avec La Voix du Nord et Liberté Hebdo, l'expulsion de Mohamed Lakel cet été. Les circonstances tout d'abord, relatées par La Voix du Nord. Résidant à Lille, Mohamed Lakel est particulièrement apprécié à Roubaix, où il était jardinier bénévole à la paroisse de l'Épeule. Ces dernières semaines, plusieurs associations comme ATAC, le MRAP, le Comité des Sans-Papiers et la CIMAD lui avaient apporté leur soutien, gageant d'une intégration sans faille et la promesse d'une embauche en tant que jardinier par la ferme urbaine du Trichon à Roubaix. Des élus avaient aussi interpellé le préfet, à l'image du député européen et secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts David Corman, qu'il avait rencontré au centre de rétention de l'Équin, pas plus tard que jeudi. Fin de citation. Mais ce que ne dit pas La Voix du Nord, c'est que Mohamed Lakel, en France depuis 2012, est un militant actif du Comité des Sans-Papiers du Nord, le CSP 59, qui manifeste depuis 20 ans tous les mercredis dans le centre de Lille pour la régularisation des sans-papiers. C'est donc un militant dont la préfecture souhaitait faire un exemple en l'expulsant. Liberté Hebdo, de son côté, a joint Mohamed Lakel en Algérie, après son expulsion. Quelques extraits. Question. Dans quelles circonstances avez-vous été arrêté avant votre reconduite à la frontière? Donc Mohamed Lakel. C'était un mardi. Je me rendais à la Bège, à Lille, pour participer à une sortie à la mer. C'est comme cela que j'ai été interpellé par deux policiers. C'était des policiers de la police de l'air et des frontières. Ils m'ont arrêté et tout s'est arrêté sur un trottoir à Lille. Très vite, j'ai été emmené au centre de rétention de l'Équin. J'ai construit ma vie en France. Ce jour-là, j'ai perdu beaucoup. Question. C'était comment au centre de rétention? C'était vraiment très dur. Quand on est enfermé derrière des barreaux, jour et nuit, c'est dur. On voit la nuit qui tombe et on se dit que ça ne finira pas. Je pensais à mon père et à mon grand-père qui ont travaillé toute leur vie pour la République française. Et aujourd'hui, on m'expulse. Question. Comment avez-vous été accueilli à votre arrivée en Algérie? Plutôt bien. Personne, pas même les autorités, n'ont compris pourquoi j'ai été expulsé. Mon dossier devait être étudié en septembre. Je ne pensais pas que cela finirait brutalement. Quelques semaines plus tôt, c'est-à-dire avant l'étude du recours. Maintenant, je vis avec ma mère et mes frères, mais je me sens déraciné. Ma vie est en France. J'espère que je pourrai y revenir. Question. Vous avez un an d'interdiction de territoire? Réponse de Mohamed Lakel. Je peux attendre parce que je veux revenir. J'espère que mon dossier sera réétudié. Alors on continue à parler des réfugiés, mais alors que Mohamed Lakel souhaitait rester en France, il y a celles et ceux qui souhaitent passer en Angleterre à Calais. C'est dans la Voix du Nord cette semaine, avec ce titre et ce chapeau. Malgré les risques, toujours plus de migrants prêts à tout pour traverser. Tenter le tout pour le tout, motivé par la réussite de certains, le nombre d'individus qui ont essayé de traverser la Manche a doublé cette année, malgré la surveillance accrue et la dangerosité du détroit qui a coûté la vie dernièrement à un Irakien. Et la Voix du Nord indique quelques données chiffrées. 1601 migrants ont tenté de rejoindre les côtes anglaises lors de 167 tentatives, contre 586 migrants pour 78 tentatives sur l'ensemble de l'année 2018, selon les chiffres de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Le phénomène apparut en 2016, 164 migrants secourus, puis 47 en 2017, restés anecdotiques jusqu'à l'automne 2018. Depuis, l'augmentation est lente mais constante. Certains tentent même de traverser ce détroit à la nage. Le corps d'un Irakien, âgé de 48 ans, a été retrouvé au large de Zeebruges, en Belgique, vendredi, vraisemblablement parti d'une plage du nord de la France. Une femme est par ailleurs toujours portée disparue depuis une opération de secours en mer début août. Fin de citation. On peut donc le constater, malgré les politiques de plus en plus répressives, malgré les murs et les grilles à Calais, les migrantes et les migrants ne s'arrêtent pas. Ils et elles arrivent toujours à Calais, de plus en plus nombreux et nombreuses, et tentent toujours d'atteindre l'Angleterre, via les ferries, via le tunnel ou directement par la mer. En clair, il serait sans doute grand temps de comprendre que tous les millions dépensés dans la politique anti-migrants, notamment à Calais, ne sont d'aucune efficacité. Il est grand temps d'imaginer une autre politique migratoire basée sur l'accueil et non sur la répression. On va terminer, pour ce qui me concerne, cette revue de presse par les nombreux articles consacrés localement à l'arrivée des Polonais dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était il y a 100 ans, avec la signature, le 3 septembre 1919, d'une convention entre la France et la Pologne à Varsovie. Nous y reviendrons sans aucun doute. La Voix du Nord, Liberté Hebdo et l'Avenir de l'Artois y consacrent actuellement plusieurs pages et de nombreuses manifestations culturelles et politiques sont prévues dans les villes du bassin minier. À suivre donc. Bien, je transmets le micro à Aurélie, toujours pour la revue de presse.
Merci. Aujourd'hui, en cette belle rentrée, je reviens vous parler d'écologie. Vous en avez entendu parler toute l'année, ça vous a même peut-être pris la tête au bout d'un moment. Et vous connaissez tous le mouvement climat. D'ailleurs, l'article de Politis dont je vais vous parler en parle très bien. L'article s'intitule « Quand le mouvement climat deviendra écologique ». Vous en devinerez donc peut-être les propos. L'écologie, ce n'est pas juste vouloir une neutralité carbone. Bien que ce soit la devise même de ce mouvement, ça ne devrait pas l'être. Ce mouvement dépolitisé, qui a fait appel aux États de toute nation pour sauver la planète, ne se berne-t-il pas d'illusions ? Je veux dire, en France, nous en avons eu la preuve avec la démission de Nicolas Hulot. Il n'y a pas de coopération possible. En effet, on ne fait pas d'écologie en brassant de l'air. Vous me suivez ? Nicolas Hulot n'était qu'un des pions d'un système capitaliste qui se donne des airs de greenwashing. En effet, le système capitaliste, veut produire plus, faire des profits, et c'est loin d'être compatible avec l'écologie. L'erreur est de croire les couleuvres que nous font avaler les multinationales, à savoir que les nouvelles technologies vont nous sauver et dépolluer la planète. Alors que, soyons honnêtes, chers auditeurs, vous savez aussi bien que moi que les solutions qui arrivent, qu'elles soient par exemple les avions solaires, la viande synthétique, les avions à hydrogène, ce ne sont pas des solutions à long terme. Puis, elles ne contentent qu'une certaine partie de la population, à savoir les multinationales qui s'en mettent plein les poches, et les riches, entre guillemets, qui ne veulent pas freiner leur mode de vie, et les pauvres, soyons simplistes, vous voulez bien, eux, n'en sont même pas au stade de la réflexion écologique. Parce que oui, peut-être que vous vous reconnaissez dans mes propos, quand on a à peine de quoi se nourrir chaque mois, quand on travaille toujours plus pour toujours moins, on se révolte quand on nous impose des voitures soi-disant plus écologiques qui vont nous coûter les œufs de la tête. Dixit, les gilets jaunes. C'est justement là que la lutte écologique doit changer. L'écologie ne doit pas être une question de riches ou de pauvres. Elle doit concerner tout le monde. C'est justement en arrêtant de coopérer avec le gouvernement, en cessant de se comporter passivement que l'on a tout à gagner. Une guerre ne se gagne jamais en faisant semblant qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont contre les multinationales, contre ceux qui dilapident nos ressources que l'on doit s'insurger.
El Manicero de Potemkin par le groupe Knowledge. Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà. Lucien, je te laisse la parole pour introduire la suite du programme.
Bien, bon, donc cette semaine, c'était les radios, toutes les radios, hein, en ont amplement parlé, toutes les radios, les médias, les télévisions. C'était le Grenelle contre les violences conjugales. Eh bien, ce Grenelle, il a été mis en œuvre, effectivement, au niveau national. Hein, on a entendu le discours d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, mais il a aussi été mis en œuvre au niveau départemental, dans les préfectures, hein, avec la participation de différentes institutions, différentes associations. Et notamment, le planning familial y a participé, et nous l'avons rencontré juste après la tenue de ce Grenelle, hein, le 3 septembre, une interview donc de Nadine, militante du planning familial, hein, que par ailleurs on connaît bien à Micro Rebelle, que nous allons écouter dès maintenant. Durant l'été, la secrétaire d'État Marlène Schiappa annonce la tenue d'un Grenelle exceptionnel sur la question des violences conjugales. Il faut dire que début juillet, plusieurs rassemblements se sont tenus avec plusieurs centaines de personnes contre les féminicides à Paris, Saint-Denis, Orléans. Et c'est donc cette semaine que ce Grenelle s'est tenu au niveau national, mais également avec des déclinaisons dans chaque département. Dans le Pas-de-Calais, c'est à Arras que le préfet a rassemblé plusieurs dizaines de personnes issues des milieux professionnels concernés par les violences conjugales, par exemple les milieux hospitaliers, et également les services de l'État, du département, par exemple en matière de protection de l'enfance, et enfin les milieux associatifs et notamment féministes. Nous sommes aujourd'hui avec Nadine, que nous connaissons bien à Micro Rebelle, et qui participait au Grenelle contre les violences conjugales à Arras en tant que militante du planning familial du Pas-de-Calais. Bonjour Nadine, pour introduire notre échange, est-ce que tu peux brosser un tableau de ce que recouvre cette question des violences conjugales d'une manière générale et si possible dans le Pas-de-Calais et le bassin minier?
Les violences conjugales, qui signifient donc des violences au sein d'un couple, sur un conjoint, par son conjoint ou son ex-conjoint, quel que soit l'âge du couple, hein, ça peut concerner de très jeunes personnes, hein, des ados par exemple, ou quelles que soient les conditions de vie du couple, sous le même toit, pas sous le même toit. Pour nous, militants et militantes du planning familial, la réalité des violences conjugales, elle est socialement structurelle. C'est-à-dire que c'est un fait social qui résulte des rapports de domination homme-femme, et il s'agit donc pour nous d'agir globalement sur l'ensemble du fonctionnement de la société en amont. Et il ne s'agit pas simplement de s'interroger sur comment on peut prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales. Dans notre département et sur le bassin minier, on a eu, à l'occasion de cette réunion à l'invitation du préfet, hein, pompeusement appelée Grenelle départementale, quelques chiffres qui éclairent les réalités sur notre territoire. En 2018, on a relevé 8400 faits de violences faites aux femmes enregistrées par la police et la gendarmerie. En 2019, à la date d'aujourd'hui, on a 15% d'augmentation par rapport à 2018. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que, et ça illustre bien le fait que c'est quelque chose de structurel, c'est que les retours que nous avons institutionnels ou faits par des chercheurs sur la question ont souvent du mal à pointer les violences conjugales en tant que telles. On parle très souvent de violences sexistes et sexuelles. Les violences conjugales sont un type de violence parmi les violences sexistes et sexuelles. Donc dans les chiffres qu'on a, il faut s'attacher à pointer si ces chiffres concernent les violences conjugales ou les violences sexistes et sexuelles. Donc le chiffre que je viens de donner concerne les violences faites aux femmes de façon générale. Il ne s'agit pas forcément de violences conjugales. Concernant les violences conjugales, d'autres chiffres nous ont été donnés, hein, sur le Pas-de-Calais, basés sur les chiffres de l'an dernier. 86,6% de violences conjugales connues dans le Pas-de-Calais l'an dernier était le fait de femmes victimes. Donc dans 86,6%, c'était des femmes qui étaient victimes. 59,9% de ces femmes avaient entre 18 et 39 ans. On a d'autres chiffres qui permettent de cerner que ça, les violences ont plutôt lieu le week-end, plutôt lieu en soirée, plutôt lieu à domicile. Mais ce sont des chiffres qui sont intéressants pour l'organisation des services qui ensuite vont prendre en charge ces victimes. Ils ne portent pas forcément d'éclairage sur leur compréhension. Par contre, il n'est pas anodin de pointer que sur ces femmes victimes de violences conjugales, 40% de ces femmes sont sans ressources. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont issues de milieux populaires, hein. Mais ça veut dire que les ressources qui permettent de faire vivre le foyer viennent du fait de l'activité du conjoint. Hein, on peut aussi bien avoir dans ces cas-là une femme dont le conjoint est ouvrier, mais on peut aussi avoir dans ces cas de figure une femme dont le conjoint est chef d'un service hospitalier et assure le niveau de vie du foyer. Un dernier type d'information qu'il n'est pas anodin de pointer, notamment pour le bassin minier, c'est que sur ces études statistiques des violences conjugales dans le Pas-de-Calais en 2018, 37% de ces violences concernaient le secteur de Lens, 13% le secteur d'Arras et 11,4% le secteur de Calais. Pour le reste, c'est disséminé un peu partout sur le département. Donc ce sont les trois lieux géographiques qui attirent l'attention hein, au niveau statistique. Mais parmi ces trois lieux, il y a quand même, par exemple, entre Lens avec 37% et Arras 13%, une situation particulière sur la région de Lens, au sens Lens et son environnement dans le bassin minier, donc sur l'arrondissement en fait de Lens, Lens-Liévin et Nain-Carvin.
Alors féminicide, ce terme est finalement assez clair, c'est le fait de tuer quelqu'un, un être humain, parce que c'est une femme. Il y a d'ailleurs une revendication, inscrire ce terme féminicide dans le code pénal en tant que crime machiste. En matière de violence conjugale, les féminicides concernent des femmes tuées par leur mari, leur compagnon ou leur ex-compagnon. Selon toi, militante du planning familial, y a-t-il des causes, y a-t-il des explications à ces violences conjugales, à ces meurtres de femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints ?
Il y a forcément des explications. Pour nous, elles résident dans l'organisation inégalitaire de la société, inégalitaire entre les hommes et les femmes. Je le disais tout à l'heure, pour nous, c'est un fait de société qui est structurel parce que la société s'est construite sur une domination masculine sur les femmes qui existe depuis longtemps mais qui a été largement renforcée lors de l'avènement du capitalisme qui avait besoin que les femmes servent à la reproduction de la force de travail et soient donc enfermées dans la sphère domestique au service des hommes dont on attendait qu'ils soient en capacité de revenir au travail chaque matin. Et puis pour les femmes, assurer aussi la reproduction de la classe ouvrière en faisant des enfants. Le rôle des femmes qui a ainsi été dévolu s'est inscrit dans les mentalités, s'est inscrit comme étant une norme qu'il n'était pas question de remettre en cause, hein, qui était de l'ordre du naturel, et on a essentialisé les compétences des femmes comme relevant de la reproduction, du soin aux enfants, du soin au mari, etc. Dans cette situation où la domination masculine sur les femmes, qui est un fait ancien, et la structuration de la société qui s'est forgée, comme je viens de le rappeler, eh bien, il est compréhensible que dans des rapports privés, au sein d'un couple, les mentalités, les conceptions, les représentations favorisent des rapports de violence, de domination, d'emprise du conjoint sur sa femme. Et les violences conjugales dont on parle ne sont pas seulement des violences physiques. Hein. Quand on parle de violences conjugales, surtout quand on évoque, comme tu l'as fait, les féminicides, on pense tout de suite aux violences physiques. Mais les violences conjugales sont toujours d'abord des violences psychologiques. Des violences psychologiques d'emprise, de culpabilisation, de responsabilisation, de banalisation des faits. Ce qui fait que il nous arrive même parfois d'être face à des femmes qui ne réalisent pas qu'elles sont victimes de violences conjugales. Parce que les choses sont banalisées et les choses sont tellement, présentées comme des choses normales qu'elles sont parfois acceptées par leurs victimes, par les victimes comme étant des choses normales. Les violences conjugales sont aussi des violences toujours psychologiques, je l'ai dit, parfois physiques, des violences aussi sexuelles. On ne parle pas assez du viol conjugal, mais les rapports sexuels non consentis existent aussi au sein des couples. Ça peut être aussi des violences économiques, avec des femmes qui sont rendues dépendantes de leur conjoint, parce que peut-être elles ne travaillent pas, mais on le constate aussi dans des foyers où les femmes travaillent et où elles n'ont pas la libre gestion du revenu de leur travail. Oui, effectivement, il y a des explications à ces violences.
Alors, que faut-il faire ? Quelles sont les préconisations, les demandes, les exigences du planning familial pour faire reculer ces violences conjugales ?
Eh bien, elles sont de trois ordres. Tout d'abord, sur le terrain de la prévention, avec l'analyse que nous faisons des causes de ces violences, il est évident qu'il y a besoin de travailler en amont sur l'égalité homme-femme dans notre société, en amont aussi auprès des jeunes concernant les rapports de sexe entre les garçons et les filles, mais aussi avec une vraie éducation à la sexualité qui permette aux jeunes de découvrir des rapports amoureux, des rapports au sein d'un couple qui soient fondés sur le respect mutuel, sur le consentement du conjoint et qui interrogent sur les rapports de domination qui existent dans notre société et qu'il ne faut pas laisser s'implanter au sein du couple. Donc la prévention, ça nous semble être incontournable et il ne peut pas y avoir de prévention efficace sans des moyens à la hauteur des enjeux. Le deuxième terrain sur lequel il faut investir, c'est la protection des victimes. La protection des victimes dès la prise en compte de la situation de violence. Ça passe par la formation des professionnels, mais une formation des professionnels de qualité hein, qui leur permettent de s'interroger sur la culture des violences qu'on évoquait tout à l'heure, qu'ils puissent déconstruire cette culture qui banalise, qui responsabilise et culpabilise les victimes. Une formation des professionnels qui leur permettent de prendre la mesure du nombre de personnes concernées, de façon à ce qu'ils puissent être complètement attentifs aux situations. Par exemple, nous pensons que les professionnels qui sont amenés à rencontrer des femmes en entretien individuel, que ce soit pour des raisons médicales, sociales ou autres, devraient systématiquement poser la question, même quand ils pensent qu'elle n'a rien à faire là. La question, pensez-vous être ou avoir été victime de violences physiques ou autres au cours de votre vie? On est étonné des réponses que l'on peut avoir quand on pose ce type de questions concernées par les violences conjugales. On se rend compte que ça concerne toute l'église sociale. Et chez les personnes d'un niveau social plus aisé, on dirait, ces violences, elles sont sous-estimées parce que très souvent, les femmes ne se livrent pas. Dans les milieux plus aisés, les femmes ont encore plus de réticence à reconnaître et à dire qu'elles sont victimes de violences conjugales. Ça signifie aussi que si on combat nos stéréotypes et si on prend la mesure de l'ensemble des personnes qui sont concernées, il faut aussi être attentif à des catégories de personnes différentes de nous, très souvent, que sont les personnes handicapées ou les personnes exilées. Et il faut aussi s'interroger sur les violences au sein de couples homosexuels. Donc ces personnes qui sont qui vivent des situations qui ne sont pas les situations générales ont besoin d'une attention particulière pour être reconnues comme étant victimes et ensuite pour être accompagnées. Il faut aussi qu'on prenne la mesure de l'âge des personnes concernées. Je l'ai déjà dit, mais il y a des gens jeunes, très jeunes. La plus jeune personne victime de violences conjugales qu'on ait rencontrée dans nos permanences l'an dernier avait 13 ans. Chez les couples d'ados, ça passe par du harcèlement, du contrôle, de l'emprise, la coupure avec l'entourage, des exigences sexuelles, ça peut aller jusqu'au viol. Et ces personnes ne sont pas comptabilisées dans les chiffres officiels, puisque le dispositif qui recense les violences conjugales ne concerne que les personnes majeures. Ça veut donc dire sensibiliser les personnels au contact des jeunes sur ces questions, les personnels de l'éducation nationale, pour prendre en charge les jeunes qui sont déjà victimes, mais aussi pour prévenir ces violences au sein des jeunes couples.
Alors, tu évoquais un troisième point, une troisième exigence en quelque sorte.
Il s'agit de la poursuite des auteurs des violences conjugales. On a tellement... le réflexe de banaliser ces violences que très souvent les peines ne correspondent pas à la gravité des faits et les auteurs s'en tirent souvent à bon compte au regard des violences vécues par leurs victimes. Donc il nous semble qu'il faut intervenir autrement auprès des auteurs et notamment... les poursuivre, utiliser les possibilités qu'offre le droit pour les éloigner du domicile conjugal et puis aller jusqu'au bout des poursuites judiciaires.
Eh bien, venons-en maintenant à ce Grenelle contre les violences conjugales. On peut dans tous les cas constater que c'est une initiative qui a été convoquée en très peu de temps, on pourrait dire à la va-vite, et sous la pression de plusieurs mobilisations féministes. Ainsi, ce Grenelle... N'est-ce pas finalement qu'une opération de communication de la part de l'État ? Que peuvent en attendre le mouvement féministe, les femmes victimes de violences conjugales ?
La présentation du préfet du Pas-de-Calais cette semaine à l'occasion du Grenelle départemental à Arras le mardi 3 septembre, laisse songeur. Il a resitué son action en valorisant beaucoup tout ce qui se fait dans le Pas-de-Calais, mais bon, c'est je dirais, de bonne guerre. Mais il a resitué son action en analysant les réalités de la société française aujourd'hui comme étant dysfonctionnantes du fait du développement des violences dans notre société. Et il a évoqué, pour illustrer son propos, les violences faites aux élus, les violences faites aux policiers, les violences faites aux pompiers, comme si les violences faites aux femmes étaient un exemple de violences qui se développent actuellement dans la société française. Et ça laisse songeur et ça interroge sur comment nos responsables analyse et explique les violences conjugales. Et sur le fond, on se dit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Sur les propositions d'action, hein, puisqu'on nous a beaucoup dit qu'il faut arrêter de causer, il faut agir, en gros. Sur les propositions d'action, ce qui est flagrant, c'est que toutes ces propositions d'action concernent les prises en charge des femmes victimes. Mais sur la question de comment on éradique les violences conjugales, rien. Il n'a été question de rien de la part des représentants de l'État. La question a été soulevée par des représentants associatifs, par des gens de bonne volonté qui sont sur le terrain, mais par les institutions, il n'y avait rien sur cette question. Et sur la prise en charge des femmes victimes, l'impression qui nous est donnée, c'est que quand même, le projet, c'est de faire mieux à moyen presque constant. Donc de faire mieux du point de vue de la coordination des professionnels qui interviennent sur le sujet et de faire mieux sur la formation de ces professionnels pour que techniquement, ils soient, plus adaptés aux situations de violence conjugale. Mais c'est quasiment un moyen constant. On nous a parlé d'1 million d'euros débloqués au niveau national pour lutter contre les violences conjugales, mais dans les propos des représentants de l'État, c'est pour lutter, pour mieux accueillir, mieux prendre en charge les femmes victimes, que c'est pas vraiment pour lutter contre les violences conjugales. Donc 1 million d'euros au niveau national qui vont être répartis sur des projets d'ici le 25 novembre, c'est dire le temps qui sera accordé pour monter et penser ces projets. Il faut savoir que sur le département du Pas-de-Calais, les dispositifs d'accueil des femmes victimes, d'hébergement des victimes ou d'hébergement des auteurs et des lieux d'écoute de groupes de parole sur le département du Pas-de-Calais, ça représente un budget pour l'an dernier de 1 650 000 euros. De connaître ces deux chiffres, ça prend la mesure de ce qu'on nous met en pâture au niveau national. C'est une goutte d'eau. Et les associations, les militantes féministes qui réclament d'autres moyens, sur la base de rapports qui ont été effectués et chiffrés, proposent, elles, qu'on débloque 1 milliard d'euros pour cette cause-là.
Alors on peut donc apparenter un petit peu tout ça à un double langage de la part de l'État pour ce qui concerne les violences conjugales. Typiquement, la majorité des femmes assassinées cette année avaient porté plainte. Et ça devrait poser question aux services de l'État, notamment la police et la justice. Autre exemple, concernant le planning familial, justement, extrêmement impliqué dans les luttes contre les violences, violences sexistes en général et violences conjugales en particulier. Donc concernant le planning familial, dans certains départements, l'État a réduit ses subventions à hauteur de 30%.
Bien, je dirais qu'on essaye, je dirais, de nous enfumer, mais je disais tout à l'heure, on propose d'agir, mais à un moyen presque constant. Donc au niveau national, un moyen presque constant, ça veut dire, pour pouvoir faire des effets d'annonce et annoncer 1 million de débloqués à l'automne 2019 pour lutter contre les violences conjugales, ça veut dire trouver de l'argent ailleurs, effectivement. Donc c'est inacceptable, c'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Sur ce que tu évoquais, des femmes qui avaient porté plainte, qui avaient fait appel à la police et qui ont été tuées par leur mari, victimes de meurtres conjugaux. Hein, il s'agit de meurtres conjugaux. Ce qui est à pointer quand même, c'est que le droit pénal, il a évolué dans notre pays sur cette question-là plus vite que les mentalités. Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui relève, qui est structurel à la société française, à notre société. Et les professionnels sur le terrain, dans la police, dans la justice, mais aussi les professionnels du social, du médical, sont aussi des éléments de cette société. Ils sont eux-mêmes imprégnés des mentalités, imprégnées du fonctionnement patriarcal et machiste de la société, imprégnées du culte de la force, du culte de la virilité et imprégnées des représentations essentialisées des rapports hommes-femmes. Et ils agissent dans leur activité professionnelle en étant imprégnés de tout ça. Et donc, il ne peut pas y avoir d'évolution et d'application équitable du droit sur le territoire sans une formation des acteurs concernés, mais une formation conséquente qui leur permettent de pointer les enjeux et de s'interroger sur leurs propres attitudes personnelles de façon à se construire une culture professionnelle et des réflexes professionnels qui sont adéquats. Ça, ça passe par des moyens à la hauteur des enjeux pour former ces professionnels.
Alors, une toute dernière question pour nous situer au-delà de ce Grenelle contre les violences conjugales, au-delà de toutes les grands-messes, au-delà de toutes les opérations de communication. Le planning familial, et notamment le planning familial du Pas-de-Calais, se définit comme un mouvement d'éducation populaire fonctionnant sur la base de l'autogestion. Si on tire ce fil autogestionnaire pour l'appliquer aux luttes féministes, on pourrait dire « l'émancipation des femmes sera l'œuvre des femmes elles-mêmes ». En pratique, pour les luttes féministes, et en particulier concernant les luttes contre les violences, qu'est-ce que ça peut signifier ?
Mais ça peut signifier d'imposer que l'on s'adresse aux femmes victimes de violences conjugales autrement qu'on ne le fait. Très souvent, on les réduit à leur statut de victime, on les assiste et on pense pour elles. Nous, il nous semble que dans ce cas-là, il faut penser avec elles. Et ne pas oublier que les femmes victimes sont aussi des personnes qui sont pleines de ressources, qui sont pleines de force. Et que pour se sortir d'une situation telle qu'on peut la connaître quand on est victime de violences conjugales, eh bien, prendre notre vie en main nous-mêmes, aider et accompagner par des professionnels compétents, ça demande du temps. Ça demande du temps et il faut donc, pour pouvoir s'émanciper et se construire la vie que l'on veut pour soi, signifie que l'on soit accompagné dans un temps qui ne doit pas être défini au départ. La temporalité ne peut pas être une norme standardisée. Et on doit permettre que ces femmes puissent reprendre leur pouvoir, leur capacité d'agir, de se sortir d'un cycle de violence, de construire une autre vie. Et il faut qu'on puisse les accompagner de cette façon-là. Et à l'échelle donc des bénévoles ou des militantes ou des professionnels qui interviennent, militer pour l'émancipation des femmes, pour que les femmes prennent elles-mêmes leur vie en main, je pense que ça pourrait être militer pour cette conception-là de l'accompagnement des femmes victimes de violences.
Bien, merci Nadine. Donc je rappelle que tu participais au Grenelle contre les violences conjugales dans le département du Pas-de-Calais, à Arras, avec le planning familial du Pas-de-Calais. Alors justement, est-ce que tu peux, juste pour conclure, juste pour l'information, donner quelques coordonnées pour qu'on puisse retrouver le planning familial, qu'on puisse appeler, qu'on puisse s'y rendre, soit pour s'informer, soit parce qu'on a envie de discuter, d'échanger.
Alors le planning familial est situé à Lens, à la maison des associations 45 rue François Gauthier, dans le centre-ville de Lens. Pour nous contacter, on peut téléphoner au 03 21 28 43 25, ou nous écrire à l'adresse suivante contact@planningfamilial62.org. Nous avons aussi des permanences qui sont des permanences ouvertes à tous et toutes. C'est anonyme et gratuit, c'est sans rendez-vous. Donc le lundi et le mercredi de 14 à 18 heures à l'après-midi. Et le vendredi de 14 à 17 heures, l'après-midi également. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site national du planning familial, www.planning-familial.org, ou celui de la région Nord-Pas-de-Calais, www.planningfamilial-npdc.org, ou pour le planning familial du Pas-de-Calais sur son Facebook, facebook.com/planningfamilial62.
Donc c'était une interview réalisée juste après la tenue du Grenelle départemental contre les violences familiales. Et bien depuis, le planning familial du Pas-de-Calais nous a fait parvenir le communiqué de presse édité par l'Association nationale du planning familial. Je vais vous en lire quelques extraits donc concernant ce Grenelle des violences conjugales. Extrait. Nous déplorons le manque d'annonces budgétaires qui accompagnent ces annonces. Il faudrait 6 millions d'euros au moins pour garantir aux 12 millions d'élèves prévention et éducation dès le plus jeune âge lors des séances d'éducation à la sexualité, permettant de comprendre les violences et les notions d'intimité et de protection, une campagne de prévention régulière dans les établissements scolaires et pour le grand public afin de faire évoluer les mentalités. Il faudrait encore de l'argent pour la formation des policiers, des professionnels sociaux, médicaux, enseignants et enseignantes, et toujours de l'argent pour garantir aux victimes une prise en charge rapide et une protection, quand il faut parfois 3 semaines pour avoir une ordonnance de protection faute du manque de professionnels. Toutes ces mesures devant s'accompagner d'une augmentation du nombre de professionnels sur le terrain dans tous ces domaines. Nous regrettons également le manque d'annonces concernant la santé, quand nous voyons le nombre important de violences dépistées lors de consultations gynécologiques et l'impact sur la santé des victimes, le manque d'annonces concernant la prise en charge des auteurs de violences. Nous ne pouvons plus tolérer que les auteurs sortent de prison sans avoir été pris en charge de manière éducative et psychologique, comme c'est le cas depuis longtemps au Canada. Nous sommes donc proches du milliard d'euros demandé par les associations si nous voulons une prise en charge à tous les niveaux. Ce sont nos mères, nos amis, nos collègues, nos voisines qui sont ces victimes et toute la société est concernée. Nous pouvons toutes et tous agir à notre niveau. Nous devons permettre à chacun et chacune d'agir dans ce sens. Des outils et des structures existent. C'est pourquoi nous participerons au groupe de travail proposé lors de cette première journée du Grenelle jusqu'au 25 novembre afin de partager notre expertise et identifier les pistes concrètes de mise en œuvre rapide. Fin de citation, c'était donc le communiqué du planning familial suite au Grenelle des violences conjugales. Voilà, donc ce micro-rebelle hebdo se termine. Il y a juste un point, Luc, qu'on n'a pas abordé durant l'agenda. C'est notre séance d'atelier radiophonique le 11 septembre.
Exactement. On reprend nos sessions d'atelier radiophonique ouvertes à toutes et tous et qui sont également improvisées. Alors les ateliers radio, le club radio comme on a appelé ça, ça se passe tous les deuxièmes mercredis de chaque mois de 15h à 17h. Donc le deuxième mercredi, ce sera la semaine prochaine, le 11 septembre. Voilà, c'est l'occasion d'apprendre à faire de la radio et surtout selon vos envies, si ce qui vous intéresse d'apprendre c'est un jingle, si c'est un reportage, si c'est un interview, si c'est une fiction, tout ce que vous voulez, venez avec vos envies et puis on essaiera de faire avec et avec les autres. Voilà l'idée du club radio. Il est temps de conclure cette émission, on dit au revoir aux auditeurs et aux auditrices. Merci à PFM et à Radio Plus. Salut Aurélie.
Au revoir.
Salut Lucien.
Bye bye.
On se quitte en musique. Carsey Blanton, Twister.
Well, I went down and I heard him sing like a whiskey, it was wild and warm. Hey, the preacher preaching, the bells out ringing, and the rumble of a gathering storm. And when he took my hand, the wind blew strong. I said, put that down and back away slow. I've had about enough out of you now, mister. Well, I